vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux. Nous allons voyager aujourd'hui, nous allons voyager en compagnie d'un livre qui vous fera rêver, qui vous fera extrapoler, qui vous fera fabuler. La fabulation a souvent du bon. Nous recevons Olivier Philippona pour Géographie des peuples fabuleux. Ça vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel. Olivier Philippona, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai, ce livre, d'abord il y a une très très belle couverture avec un personnage, j'allais dire un personnage uni. Comment on pourrait
acéphale.
Dire acéphale. Voilà.
Oui.
Donc, ah, pourtant, il a une tête, mais il n'a pas de tronc.
Alors oui, acéphale, alors... c'est-à-dire qu'il n'a pas, il n'a pas la tête par-dessus les épaules, il a la face sur le torse.
Oui.
D'ailleurs, il y a certaines variantes de cet être où la face est carrément dans le dos. Il est aussi connu sous le nom de Blémy, et c'est une des créatures fantastiques, un des peuples fantastiques, ou fabuleux plutôt,
ouais.
Que j'ai présenté dans ce livre.
Alors il y en a, hein, j'ai peur de malheureusement ne pas faire le tour de la question, je ne cache pas. C'est une planète.
Il y en a beaucoup, beaucoup plus que je ne pensais quand j'ai commencé ce livre. Je me suis dit, ça va être facile, je vais découvrir 10 peuples fabuleux, certains que je connais déjà, d'autres non. Et en fait, en creusant un petit peu le sujet, je me suis rendu compte qu'effectivement, notre Terre a été peuplée de centaines de peuples fabuleux qui n'ont jamais existé, mais auxquels on a cru parfois pendant plus de 1000 ans.
Et c'est important pour nous d'avoir cet horizon-là des peuples fabuleux, parce que finalement, au tout début de... Enfin, dans les temps anciens, très anciens, on a l'impression que ce rêve-là, ou ce fantasme, ou cette crainte, ou cette peur des peuples fabuleux, constitue la cartographie mentale bien avant les maps-mondes. On dirait qu'il faut d'abord les rêver, les craindre, les anticiper, ces peuples lointains.
Oui, mais c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur ce sujet, c'est qu'effectivement, c'est le peuple fabuleux, c'est pas juste une curiosité de l'histoire humaine, de la géographie humaine, c'est vraiment une catégorie mentale, comme vous dites, qui est indissociable de la science géographique et des grandes découvertes. Peut-être que ce qu'on a appelé les grandes découvertes, qui sont en fait la découverte du monde par l'Occident, peut-être qu'elles n'auraient pas eu lieu aussi vite, peut-être qu'elles n'auraient pas été aussi loin, s'il n'y avait pas eu en plus cet attrait des peuples imaginaires, qui étaient décrits depuis Hérodote, depuis Pline l'Ancien, et beaucoup d'autres auteurs...
Pseudo-Calistène...
etc. Et beaucoup, beaucoup d'autres auteurs antiques que j'ai lus pour l'occasion, que je connaissais pas forcément. Et en effet, c'est un des autres sujets du livre, c'est qu'à partir du 18e, 19e siècle, puis avec la découverte des derniers peuples autochtones au milieu du 20e siècle, cet horizon chimérique n'existe plus. Et pourtant, si... Puisque on peut quand même se poser la question de savoir si l'exploration lunaire et la fusée de Elon Musk là qui vient de partir ou avant-hier et l'exploration martienne qui va commencer, si elle se serait produite aussi vite et aussi fort s'il n'y avait pas eu cette curiosité de la vie extraterrestre qui a remplacé finalement la catégorie des peuples fabuleux. C'est d'ailleurs assez frappant de voir que le mythe extraterrestre, le mythe des ovnis qui démarre dans les années 50 aux États-Unis, il coïncide avec la découverte des derniers peuples autochtones en Papouasie et en Amazonie, comme s'il fallait absolument les remplacer par un nouveau peuple fabuleux.
Alors votre livre, Olivier Philippona, Géographie des peuples fabuleux, est sous-titré, je crois, c'est une anthropologie surréaliste, c'est ça. Enfin, voilà. Alors il y a le côté, enfin, je crois qu'il y a un sous-titre, non?
Non, il n'y a pas de sous-titre, mais l'anthropologie surréaliste, c'est le titre de l'avant-propos.
Oui.
Bon, qui n'est pas de moi. C'est de Jacques Le Goff qui a parlé de l'anthropologie surréaliste du Moyen-Âge, où au Moyen-Âge il y avait vraiment l'horizon le plus lointain, ce n'était évidemment pas encore les Amériques, c'était l'Inde. On a longtemps considéré que l'océan Indien était une sorte de lac en vérité, puisqu'on n'avait pas encore passé le cap de Bonne-Espérance. Et donc on pensait que l'Afrique rejoignait le continent indien, asiatique, par le sud. Et autour de ce lac vivaient quantité de créatures fabuleuses. Alors, je peux en citer quelques-unes, si vous voulez.
Oui,
il y a les siapodes, ou les unipodes, qui ont multiples noms, qui sont des créatures qui munies d'un seul pied, donc qui se déplacent par bond, Et comme elle vit dans les pays chauds, dans l'Inde, où on imagine que c'est presque un désert, elle se repose en s'allongeant sur le dos et en se faisant de l'ombre avec leurs pieds, par exemple. Il y a les fameux blémis dont on vient de parler, qui ont la face sur le torse, et voilà, quantité d'autres créatures comme celle-là.
Alors on va en parler, on va faire l'inventaire, enfin non, pas l'inventaire, mais enfin on va... des repérages, des castings d'un peuple fantaisiste aussi. Il y a beaucoup de fantaisie, il y a tout un bestiaire. Mais comment vous est venue cette idée de géographie des peuples fabuleux? Est-ce que vous avez voulu faire une sorte de cabinet de curiosité? Est-ce que vous-même, vous collectionnez des atlas
Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question.
Oui, comme d'habitude.
Les atlas, oui, je dois dire que je suis, depuis mon plus jeune âge, je crois que les premiers livres que j'ai lus, c'est des atlas. Et j'adorais compulser des atlas quand j'étais gamin, effectivement. Décalquer des cartes, inventer des pays, etc. Donc la géographie fantastique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, amusé, en effet. Par ailleurs, j'ai écrit quelques livres et j'ai toujours l'impression que j'écris pour apprendre ce que je vais écrire, finalement. Donc j'avais pas une idée préconçue de ce livre. Lorsque je l'ai proposé à mon éditeur, Buchet Chastel, j'avais dans l'idée de parler des Patagons, qui sont ces supposés géants qui vivaient en Patagonie, donc à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud, qui ont été découverts en 1519 par Magellan. Et puis ensuite, il y a eu quantité d'expéditions qui ont passé le Cap Horn, etc., et qui ont voulu eux aussi rencontrer les Patagons. Alors mon éditeur a trouvé l'idée intéressante, on a étendu le sujet, les peuples fabuleux, et là, en commençant à me documenter sur ce sujet, je me suis aperçu qu'il y avait une littérature éparpillée, vraiment, mais extrêmement abondante, et qu'il fallait synthétiser tout ça. Et je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont étudié ces peuples fabuleux, surtout au Moyen-Âge. Je pense à Le Couteux, notamment. Je tiens à citer son nom parce qu'il a écrit quantité d'articles vraiment savants sur les peuples fabuleux du Moyen-Âge. Mais il fallait synthétiser tout ça. Et finalement, cette géographie est devenue une histoire, en fait. Puisqu'on voit qu'au fur et à mesure des découvertes géographiques, eh bien, des peuples fabuleux qu'on croyait cantonnés autour de la Méditerranée, par exemple, on va les repousser toujours dans les contrées qu'on ne connaît pas encore. Donc, plus loin vers l'Asie, plus loin vers l'Afrique, et bien sûr, en Amérique, avec la découverte du continent américain.
Oui, voilà, à chaque fois, il y a une découverte. Donc, ce livre, Olivier Filippona, s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous connaissiez, vous aviez le goût de la géographie, de l'imaginaire géographique.
Oui.
Mais il fallait... vous avez fait vous-même une exploration au fur et à mesure.
Ah, mais complètement.
Donc, c'était une double découverte, en fait.
Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai fait une exploration de ce qu'on appelle le corpus, en quelque sorte. Et puis, ça m'a amené... c'est vraiment un livre qui a été fait par sérendipité, comme on dit. Ouais. C'est-à-dire que voilà, je me renseigne sur les Patagons. Je me renseigne sur les Amazones d'Amérique du Sud, puisqu'on a cru jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on a voulu croire que les Amazones, bon, n'existaient plus en Europe, on en était certains, etc. Mais peut-être qu'elles avaient passé l'Atlantique ou qu'elles étaient passées par le détroit de Bering et qu'on les retrouverait en Amérique.
Ouais. C'est vrai que... Alors, vous citez cette phrase d'Henri Michaud, « La Terre est rincée de son exotisme », et après, vous dites que le peuple fabuleux est par définition celui qui vit aux frontières de notre univers géographique, au mental, ni au-delà, ni en dessous, ni tout à fait autre, ni tout à fait semblable. Posté au seuil du néant, il avertit l'humanité qu'au-delà commence l'envers de la normalité. Donc c'est aussi une interrogation sur le normal, le pas normal, le paranormal presque. On est toujours aux frontières. C'est une interrogation sur notre vision de ce qui est à la marge, de ce qui est civilisé ou non, et de ce qui nous ressemble ou non. Ça dépasse le simple exotisme.
Oui, alors d'abord, il importe de dire que... moi, je ne traite pas, par exemple, dans ce livre, des Lilliputiens ou des créatures inventées par Wells dans la machine à explorer le temps, par exemple, qui sont vraiment des créatures de pure imagination. Là, ce sont des peuples imaginaires qui n'ont jamais existé, sauf peut-être les Amazones, mais auxquels des peuples entiers, les Occidentaux pour la plupart, ont cru, on l'autant cru. Vraiment, on n'a pas remis leur existence en question, même si on ne les a jamais rencontrés. Alors, les Patagons dont je parlais tout à l'heure, c'est une exception, puisque c'est dans l'histoire le premier peuple fabuleux qu'on ait rencontré et auquel on a continué à croire. C'est-à-dire qu'on a continué à penser, presque jusqu'au début du 19e siècle, que ces gens-là faisaient 2,50 m, 3 m de haut, alors qu'ils étaient un peu plus grands que nous. En fait, ils faisaient à peu près notre taille, à nous, actuellement. C'est vrai que quand les Espagnols les ont rencontrés pour la première fois au début du XVIe siècle, les Espagnols étaient petits. Et donc, ils se sont imaginés qu'ils avaient affaire véritablement à des géants. Et donc, votre question, c'était sur la... Oui, sur la normalité.
Oui, sur la normalité. Parce que, voilà, je vous cite, il avertit l'humanité qu'au-delà commence l'envers de la normalité. Donc, la question, c'est... oui, il y a les peuples fabuleux, cette notion d'imaginaire, et puis ce qui est normal, vraiment... pas normal. Et à chaque fois, en fait, ils sont absolument pas normaux.
Non, et effectivement, c'est toujours une interrogation sur ce qu'est l'homme, sur ce que nous sommes nous-mêmes, en effet. Il y a toute cette question, par exemple, qui va intéresser les savants, les naturalistes jusqu'au milieu du XIXe siècle, sur la nature des singes aussi, par exemple, des chimpanzés, des orang-outans. Est-ce qu'ils sont des homos? Est-ce que ce sont des hommes dénaturés? Est-ce que c'est une autre espèce d'homme? Donc un peuple? Et on a des descriptions jusqu'au XVIIIe siècle de peuples de chimpanzés ou de peuples d'orang-outans qui sont véritablement considérés comme des hommes sauvages, en quelque sorte. Il faudra très très longtemps pour comprendre que ce sont deux espèces séparées. Et puis il y a aussi ce renversement qui se produit avec la découverte des Amériques, mais surtout avec la chute des grands empires, des empires aztèques de l'empire Inca et de l'empire Maya, où finalement l'homme occidental, qui est perçu par beaucoup de ces peuples comme lui-même un peuple fabuleux, un peuple divinisé, un peuple venu d'un lointain complètement chimérique, eh bien finit par se demander si finalement cette catégorie des peuples fabuleux n'est pas universelle et si lui-même, l'homme occidental, n'est pas compris dans cette catégorie et n'est pas regardé par d'autres peuples, par les sauvages, entre guillemets, d'Amérique, etc., comme lui-même un peuple fabuleux. C'est-à-dire que cette question-là, cette question de l'autre, cette question du complètement étranger, elle s'est posée aussi de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui, on voit que nous-mêmes, nous sommes peut-être les peuples fabuleux d'autres peuples, etc. etc.
De la même façon que pour un grand nombre d'auteurs protestants au XVIe siècle, le cannibale, ça n'est pas seulement le sauvage d'Amérique qui est souvent un cannibale, en effet, un anthropophage plus exactement. C'est aussi l'homme occidental qui pratique les guerres civiles, par exemple, qui est une, pour ces auteurs-là, qui est une forme d'anthropophagie. Il y a des pages célèbres de Montaigne là-dessus.
Ouais, on va en reparler. Parce que alors, c'est vrai que vous parlez aussi de la tectonique, j'ai bien aimé, de l'imaginaire. Est-ce que ça signifie que ces peuples inconnus, bon, ils ont inspiré les géographes, hein, ils ont vraiment... Mais votre définition à vous des peuples fabuleux, ça serait laquelle, Henri?
Je pense que c'est un peuple qui n'existe que par oui-dire. Ça n'est pas un peuple, effectivement, qui est sorti de la littérature de fiction, comme je disais tout à l'heure. C'est un peuple dont on a entendu parler, qu'on aimerait rencontrer, mais qu'on ne rencontre jamais.
Qu'on ne rencontre jamais. Un peuple mirage.
Un peuple mirage, en quelque sorte. Oui, je me rappelle de ce roman d'Hôtel qui s'appelait Le pays où l'on n'arrive jamais.
Où l'on n'arrive jamais.
Et ben, voilà,
pour ma génération, ça a compté.
Oui, je crois qu'on est de la même. Voilà. Et le peuple fabuleux habite les pays où l'on n'arrive jamais. Donc les pays où il faut aller, absolument.
Absolument. Il n'y a pas l'Atlantide, il ne m'a pas semblé, je n'ai pas vu...
Non, alors effectivement, je n'ai pas parlé de l'Atlantide, mais je ne sais... C'est vrai que... j'aurais pu parler des Atlantes, mais là on est plus dans le mythe quand même, que dans la croyance, dans la croyance géographique, donc... Bon, je ne pouvais pas non plus parler, je ne pouvais pas tout aborder, le livre aurait été interminable.
C'est une synthèse, hein, Olivier Filippona. Il y a eu des choix rigoureux. Comment vous avez construit cet ouvrage?
Mais au début, en fait, à un moment, j'étais vraiment perdu, hein, je vous l'avoue, parce que c'est un petit peu normal quand on parle de géographie de découverte d'être perdu à un moment donné. Je me suis demandé si je n'allais pas en faire un dictionnaire, en fait, donc de prendre l'index du livre dans lequel il y a les peuples et puis de tous les traiter. Et mon lecteur m'a dit non, il faut vraiment faire un essai. Il a eu raison. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette géographie est devenue une histoire, en effet, parce que J'imaginais naïvement au départ que je pouvais situer ces peuples chacun, dire ben voilà, les Siapodes qui marchent sur un pied sont en Inde et nulle part ailleurs, les Blémis qui ont la tête sur le torse sont en Afrique et nulle part ailleurs, les Cynocéphales qui sont des hommes à tête de chien sont en Asie mineure et nulle part ailleurs, etc., etc., etc. Mais en fait non, ces créatures se déplacent. Avec le temps, avec le recul, plutôt avec l'avancée des connaissances géographiques, etc. Et donc, le bouquin ne pouvait s'organiser que sur un plan historique, en fait. Et puis surtout, les sources sont extrêmement contradictoires.
Alors, combien de livres avez-vous lu? Mais c'est là, parce que il y avait ceux, bon, que vous aviez dans votre bibliothèque, j'imagine, hein, les atlas, les... Tout ça, enfin ce que vous aviez, mais après, là, les découvertes...
J'en ai lu beaucoup. Franchement, je vous dis, je suis vraiment allé à la découverte de ces peuples. Et j'ai lu beaucoup de littérature antique, de littérature médiévale, beaucoup les cosmographes de la Renaissance aussi.
Ah oui, les cosmographes.
Puisque s'il y a une donnée fondamentale aussi, c'est que jusqu'à la Renaissance, il est très difficile de remettre en cause les auteurs latins, les auteurs classiques, et même les encyclopédies médiévales dans lesquelles on a traité de ces peuples. Et puis alors évidemment, sur 1000 ans, les noms se sont déformés, ils sont plus ou moins mal situés sur la map monde qui elle-même évidemment évolue avec le temps. Donc pour mettre de l'ordre là-dedans, c'est un petit peu compliqué, mais moi ça m'a permis en tout cas de faire des découvertes littéraires. Enfin, naïvement, moi j'avais jamais entendu parler de la cosmographie universelle d'André Thevet, qui était le cosmographe de Catherine Médicis, qui est un livre absolument extraordinaire parce que c'est une espèce de description universelle dans lequel il reprend, parfois en les contestant, parfois en vraiment sans les contester du tout. Voilà, tous les auteurs antiques depuis Pline l'Ancien. Et puis aussi, où il se moque des autres cosmographes. On dit, mais ce cosmographe allemand, Sébastien Münster, croit encore qu'il y a des créatures qui n'ont pas de bouche, qui n'ont pas d'anus, qui n'ont qu'un œil et qu'on trouve en Asie, qu'on trouve en Inde. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a vraiment qu'un Allemand pour avoir inventé ça. Ouais. Mais en revanche, ça ne le gêne pas du tout de dire qu'il y a des Amazones en Amérique, que ces créatures-là, on ne les trouve pas en Inde, mais on peut peut-être les trouver en Amérique. Et c'est absolument inénarrable. Il faut absolument lire la cosmographie universelle d'André Thevet, par exemple.
Oui, j'en avais entendu parler. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, je pense qu'à la Renaissance, il y a eu beaucoup d'écrits sur les peuples fabuleux. Quelles sont les périodes où on a le plus écrit sur les peuples fabuleux?
Ah ben c'est vraiment le Moyen-Âge parce que...
Moyen-Âge.
Oui, parce que au Moyen-Âge, on a un certain nombre de savants dont l'entreprise principale, c'est quand même de collecter tout le savoir antique sans aucun discernement et d'en faire ce qu'on n'appelait pas encore des encyclopédies.
Ce qu'on appelle après la vulgarisation, c'est...
Oui, c'est ça, mais alors vraiment sans aucune remise en cause. Ouais. Donc alors là, c'est un espèce de bestiaire fantastique où on trouve absolument de tout. Il y a le plus célèbre, mais qui est un peu plus tardif, parce que je crois
de
que
la
c'est...
De la compilation.
C'est de la compilation, c'est ça. Le plus célèbre, qui est un peu plus tardif, je crois que c'est le début 14e, c'est les fameux voyages de Mandeville. Voilà. On sait depuis que ce voyageur était en fait un imposteur, qui n'a pas voyagé beaucoup plus loin qu'au Levant, qu'au Moyen-Orient, mais qui raconte des voyages pratiquement tout autour de la Terre, de façon très sérieuse, en recyclant toute la littérature médiévale sur ces sujets-là, et en disant qu'il a rencontré dans des îles des gens qui faisaient 20 mètres de haut, et puis toutes les créatures dont on n'a pas encore parlé, qui ont été, entre guillemets, découvertes par Alexandre le Grand lors de sa conquête de l'Orient. Où ça, c'est vraiment une source
importante. Alors justement, je pense qu'on va parler des Amazones.
Oui.
Qui est quand même un peuple fabuleux au féminin, d'ailleurs.
Oui.
Et vous parlez de gynécocratie, je crois. Quand apparaissent les Amazones? Quand est-ce qu'on les... Alors, c'est au moment d'Alexandre le Grand, justement? C'est quoi?
C'est même avant.
C'est même avant,
parce que les auteurs grecs anciens en parlent déjà, Hérodote en parle déjà, et ça correspond très très certainement, effectivement, à un à un peuple, mais qui n'était pas un peuple de femmes autochtones, en quelque sorte, mais peut-être des femmes armées, des régions de la City, c'était des peuples scythes, voilà, au nord de la mer Noire, dans l'actuelle Ukraine, en fait. Alors, mais par contre, là-dessus, s'est greffée toute une mythologie, elle se coupait tout le sein, elle vivait vraiment, elle vivait dans des communautés uniquement féminines, les hommes étaient asservis aux Amazones et elle les rencontrait une fois par an, par exemple, pour assurer la reproduction de la race. Les mâles étaient systématiquement abandonnés ou trucidés, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a une base qui est réelle là-dessus, et l'archéologie a montré qu'effectivement, on l'a trouvé dans des sépultures, dans ces régions de Russie, des femmes qui étaient enterrées avec des armes, etc., qui montaient à cheval manifestement, qui avaient reçu des blessures, donc des femmes guerrières. Voilà. Mmh. Donc ça a existé, ça a toujours existé. Mais au fur et à mesure qu'elles ont disparu d'Asie mineure, alors on va les situer en Libye, on va les situer vraiment à l'ouest de l'Afrique, dans un pays imaginaire, et puis finalement les retrouver en Amérique. Elles vont donner leur nom au Marañón, qui est devenu l'Amazone.
Oui, c'est
et
ça.
Ce qui est extraordinaire, c'est que les conquistadors, qui n'étaient pas tous des lettrés, qui se sont précipités en Amazonie, en Amérique du Sud, avaient tous cette idée de rencontrer les Amazones. Ils avaient souvent été attaqués, du reste, par des femmes le long des fleuves, avec des flèches, parce que souvent les hommes avaient été décimés, par exemple. Tout simplement, donc, le mythe s'est perpétué de cette façon-là. Et au milieu du XVIIIe siècle, un homme des Lumières comme Lacondamine redescend l'Amazone en décidant de mener une véritable enquête pour savoir si oui ou non les Amazones existent ou pas. Donc, il recueille des témoignages, etc. Il ne les rencontre pas, évidemment, ce qui permet de perpétuer la légende. Et on voit bien que, malgré toute sa rationalité d'homme des Lumières, il aimerait quand même continuer à y croire. Et il laisse une chance aux Amazones quand même, en disant « Je n'ai pas pu les rencontrer, je ne pense pas qu'elles existent, mais je ne peux pas nier complètement la possibilité qu'elles existent. »
D'où l'Amazonie.
D'où l'Amazonie.
C'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, le rêve d'un peuple...
finit par s'ancrer dans une réalité.
Dans une réalité...
Géographique.
Géographique. Ouais, littéraire forcément, enfin verbal, laisse la cartographie, on baptise finalement, on baptise, c'est parce qu'il y a des, la cartographie est faite de noms, de mythes, et ça s'inscrit, voilà, ça s'inscrit sur la map monde, c'est ça qui est...
Il est arrivé la même chose aux Pygmées.
Voilà.
Puisque les Pygmées, c'est un peuple imaginaire... pour les Grecs, pour les Grecs anciens, voilà, donc des petits hommes qui mènent un combat incessant contre les grues, les oiseaux, voilà, et on va les retrouver. Alors c'est pareil, au fur et à mesure de la progression de la connaissance géographique, on les retrouve en Asie, les missionnaires chrétiens qui partent à la cour des Mongols ou en Chine au XIIe, XIIIe siècle, rencontrent ou croient rencontrer des peuples de tout petits hommes qu'ils appellent pygmées, et on va les retrouver jusqu'en Amérique. On les retrouve du temps de Jacques Cartier au Canada sous le nom de Pimain ou de Pikmin en Amérique du Nord, etc. Et puis finalement, à la fin du 19e siècle, les explorateurs anglais et allemands rencontrent les vrais pygmées, entre guillemets, en Afrique, et leur donnent ce nom. Mais en fait, c'est un nom qui est issu de la mythologie grecque, en tout cas de l'imaginaire grec. Pygmée, c'est la même origine c'est la même étymologie que la paume de la main. C'est-à-dire qu'ils sont pas plus hauts que deux ou trois paumes. Mais en fait, les pygmées avaient déjà leur propre nom, les Akas, les etc. Et de la même manière que le terme Esquimau est assez péjoratif pour les Inuits, le pygmée est finalement assez péjoratif, et c'est un nom qui a été imposé en quelque sorte par le conquérant.
Et c'est vrai que l'Amérique hérite de tous ces rêves de peuples fabuleux.
Parce que
vraiment, il y a Amérique du Nord et Amérique du Sud.
Oui, alors
les deux, je pense.
Tout à fait. Oui, c'est vrai que Jacques Le Goff a parlé de l'horizon onirique que représentait l'Inde pour les Occidentaux du Moyen Âge. Et par contre, pour les hommes de la Renaissance et d'après, l'Amérique est effectivement un nouvel horizon onirique. C'est en quelque sorte la dernière chance de découvrir des peuples fabuleux. Ensuite, il n'y en aura plus d'autres. On va découvrir des bons sauvages, peut-être encore dans le Pacifique, qui est encore une autre catégorie mentale plus ou moins frauduleuse. Mm-hmm. Voilà,
oui, parce que vous la remettez un petit peu en question dans votre livre, le mythe du bon sauvage.
C'est un petit peu le pendant du cannibale, mm-hmm. En quelque sorte. Mais en fait, les deux se rejoignent assez rapidement. Et Bougainville, quand il découvre Tahiti avec son naturaliste Commerson, on rapporte un tableau complètement idyllique, les hommes des Lumières, Diderot, etc., se jeter dessus en disant ça y est, on a trouvé l'homme à l'état de nature. Mais c'est Bougainville lui-même, quand il revient en France, qui dit attention, c'était pas tous des anges, hein, je en substance dis ça, et les auteurs des Lumières vont beaucoup lui en vouloir d'avoir détruit leurs croyances.
Ouais, c'est ça. À chaque fois, il y a le vrai, le faux, la réalité, la fiction. C'est un roman, les peuples fabuleux. Nous allons faire une pause musicale, voir si notre horizon musical correspond à notre horizon géographique, nos géographies intérieures. Que nous réserve-t-on en régie, Florence ?
Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour mythique, c'est le Beaujolais nouveau. Alors, j'ai trouvé un titre qui s'appelle « Hydroalcoolisme ». C'est de François Patou et de Pupkin, et ça s'appelle « Arôme complexe ». Et c'est un très beau titre.
Je me tartine les mains avec ce liquide visque, même liquide disque, c'est bien de serrer la visque, même si ça nous crispe, si pour limiter la crasse, dynamiter les risques, le temps que ça passe, les doigts pleins d'alcool, comme si j'avais lu Apollinaire, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, comme funiculaire, l'attention monte chez mes amis lunaires, attends de voir ce que le permafrost cache depuis des millénaires, junkie du gel, on va y laisser la peau, pas la vie peut-être, mais sûrement le terme de nos peaux. J'ai soif de baume au cœur, de baume pour l'épiderme sec et la liqueur en baume tente de mettre un terme aux obsèques. Capuche, nyclotrome, les gens tous la rue crame. Cœur cobalt, vie en bocal, les présidents belliqueux, bordel à queue, t'étonnes pas que tout le monde craque. Paluche, nickel, chrome, on va tous kicker le drame. Capuche, nyclotrome, les gens tous la rue crame. Cœur cobalt, vie en bocal, les présidents belliqueux, bordel à queue, t'étonnes pas que tout le monde craque, craque. T'étonnes pas que tout le monde craque.
Vous avez bien compris que c'était pas pour le Beaujolais nouveau que ce titre a été conçu, mais à cause de la pandémie et du gel hydroalcoolique, ils passeront le 1er décembre au studio de l'Ermitage à vous, Bibliomanie.
Voilà, donc c'est vrai, vous écoutez Bibliomanie aujourd'hui en présence d'Olivier Philippona qui vient nous parler de Géographie des peuples fabuleux qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chassel. Et ça tombe bien, Olivier Philippona, on parle de gel hydroalcoolique.
Oui. Oui, ça tombe très très bien. Je me suis dit, il faut trouver un lien entre cette chanson et le sujet de ce livre. Mais il y en a un en fait, parce que j'ai commencé à l'écrire d'abord en lisant énormément pendant un an, au tout début du confinement. En 2020, donc, à faveur aussi d'une période de chômage partiel dont je me félicite aujourd'hui. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup de temps pour lire. Et donc, il y a deux choses. C'est que pendant cette période de confinement, il y a eu un moment pendant lequel on ne pouvait pas se promener à plus d'un kilomètre de chez soi. Et du coup, les lointains, les voyages, les horizons chimériques dont je parlais tout à l'heure, c'est redevenu quelque chose de désirable. Les voyages ont un peu repris maintenant, mais on s'est remis à rêver le monde, je trouve, hein, et aussi d'ailleurs à imaginer quantité de, vie à l'ère du complotisme, etc., quantité d'histoires complètement abracadabrantes liées précisément au confinement et à la pandémie. Donc on voit que cette tendance de l'imaginaire humain, elle n'a pas disparu. Alors le gel hydroalcoolique, en travaillant sur ce bouquin, je suis tombé sur un article du Figaro, que je cite dans le livre, donc je vais vous le lire. D'un journaliste du Figaro, donc c'était en octobre 2020, et qui écrivait « De même qu'il y eut des tribus où l'on se trépanait le crâne, où l'on s'incrustait un grand disque dans la lèvre inférieure, le masque et le gel hydroalcoolique peuvent être considérés comme les parures d'une nouvelle peuplade exotique. » Bon, c'est de l'humour, mais cette envie d'y croire, elle persiste. Hein,
Elle persiste, et c'est vrai qu'il y a eu la pandémie, il y a aussi des outils de navigation Internet, je pense à Google Maps, où on peut se projeter, on parle aussi des métavers, enfin on est dans un monde où... ça a dû vous faire réfléchir.
Oui, tout à fait. Alors, et c'est vrai, en plus... Je voulais commencer ce livre, je l'ai pas fait finalement, par une anecdote personnelle. Je l'ai pas fait parce que ça m'aurait quand même éloigné de mon sujet, puis je voulais pas faire quelque chose de trop subjectif justement.
Ouais.
Mais je me rappelle que étant beaucoup plus jeune, j'ai fait un voyage à Bali. À l'époque où c'était touristique déjà, mais pas trop. J'avais passé une nuit près d'un lac, le lac Batur, que sûrement certains connaissent. Et je lisais mon guide touristique et on me disait, de l'autre côté de ce lac, il y a une peuplade qui enterre ses morts à ciel ouvert. Ils sont pas très accueillants pour les étrangers, mais enfin, vous pouvez prendre une barque à vos risques et périls, parce que la route ne mène pas jusque là-bas, et allez voir, ça vaut quand même le coup d'œil, mais soyez sur vos gardes. En gros, c'était ça. Et je me rappelle que, alors j'étais très tenté d'y aller, et j'en ai fait pas des cauchemars, mais j'y ai pensé toute la nuit, et finalement j'ai fini par fabuler complètement ce peuple qui est un peuple pré-hindou, enfin vraiment ancien, des plus anciens de l'île. Et bêtement, j'ai renoncé à y aller en me disant, mais si je ne reviens pas de là-bas, si je ne réussis pas à retraverser le lac, où vais-je tomber, quoi. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que en préparant ce bouquin, je suis allé sur Google Maps, effectivement, je suis allé au bord du lac, etc. J'ai mis le petit bonhomme jaune là, qui se promène, parce que maintenant il est allé jusque là-bas. Et en fait, maintenant il y a une route qui mène presque jusqu'au village. Elle s'arrête un petit peu avant, donc on voit, il y a des poteaux télégraphiques, etc. Et puis à un moment, la route s'arrête, mais il y a quand même des gens qui ont été à pied jusqu'au village, qui ont pris des photos, qu'on peut voir, et où ils se sont pris en photo auprès, effectivement, des cadavres en décomposition en plein air, etc. Et ces gens sont tout à fait sympathiques et accueillants. Ils veulent pas voir trop de monde. C'est normal. En n'importe quel village de France, on n'a pas envie non plus de voir débarquer des centaines et des centaines telle personne venue des quatre coins du monde. Donc, ils préservaient simplement leur intimité, en quelque sorte. Et finalement, je trouve que c'était une bonne métaphore du rapport, effectivement, de l'Occident aux peuples étrangers, qu'ils ont fabulé au cours du temps, c'est-à-dire en même temps un désir d'y aller, un désir de voir s'ils sont aussi étranges qu'ils en ont l'air, et en même temps une crainte de tomber sur des sauvages, sur des cannibales, sur des êtres vraiment, vraiment hostiles.
Il y a la notion du pays où l'on n'arrive jamais, mais il y a aussi le pays d'où l'on ne revient jamais. Oui. C'est comme les enfers avec dans le temps des Romains. Il y avait le monde souterrain, ce monde-là souterrain qui nous crée des anxiétés. Alors, est-ce que la délocalisation, Olivier Philippona, est aussi un mot-clé de votre livre? Parce que tout à l'heure, on parlait des Amazones. Les Amazones, on les a d'abord imaginées vivant en Anatolie, puis après, elles ont été en Asie mineure, puis après en Libye, en Syrie, enfin jusqu'en Amérique. Bon, ce mythe, c'est ce mirage, ce mirage de peuplade, se délocalise en fonction aussi de nos craintes par rapport à telle ou telle frontière, peut-être.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, effectivement, on a tendance à les repousser toujours un petit peu plus loin et jusque sur Mars et sur la Lune. Alors, il y a un peuple dont j'ai pas parlé tout à l'heure, très important parce que je consacre beaucoup de pages. C'est les Panothéens et les Phanésiens qui s'appellent aussi les Phanésiens,
oui.
Qui sont un peuple d'Inde muni de très très grandes oreilles. Des oreilles qui tombent jusqu'au sol et dont ils se couvrent pour dormir. Alors, il y a différentes variantes de...
Il faut dire que les oreilles, excusez-moi de vous couper, mais il faut dire que les oreilles font partie de tout ce qui est... Alors, il y a tous les côtés morphologiques dans les peuples fabuleux.
Oui.
Il y a donc ceux qui n'ont pas de tête, les grandes oreilles, les petits coups, enfin, les grands pieds.
Oui, les hommes à tête de grue aussi, c'est-à-dire à tête d'oiseau avec un très très long cou, effectivement. On en baladera même un en Europe, je crois, au XVIe siècle. Bon, son cou n'était pas aussi grand que celui d'une girafe ou d'une grue,
oui.
Quand même. Mais effectivement, c'est les particularités morphologiques affectent souvent les extrémités.
Voilà, alors il y a aussi les arines, ceux qui n'ont pas de nez,
oui.
les astones, ceux qui n'ont pas de bouche, les monocoles sont unijambistes.
Oui, oui.
Alors les oreilles, c'est vrai que là, il y a beaucoup de fantaisie sur les oreilles. Surtout dans le Mahabharata, d'ailleurs, je vous dis, tu penses à un moment donné, on parle de gens qui se recouvrent leurs oreilles, et parfois même des gens à oreilles de chameau, animal, dites-vous, inconnu en Occident. Et vous ajoutez, on ne peut s'empêcher de penser que l'éléphant dut aussi servir d'inspiration aux conteurs
oui.
indiens.
Alors, c'est intéressant parce que... Alors, c'est vrai que beaucoup de ces mythes, entre guillemets, viennent de l'Inde et nous ont été transmis par les Grecs de plusieurs façons. C'est-à-dire que c'est surtout à partir d'Alexandre, en fait, où il y a un des auteurs qui s'appelle Mégasthène,
mm-hmm.
Qui était un ambassadeur de l'empire d'Alexandre à la cour de Pataliputra en Inde, dont il a rapporté un certain nombre de légendes qui ont été prises vraiment pour argent comptant dans le monde grec. On a aussi un autre auteur qui s'appelle Ctésias de Cnide, qui a rapporté des légendes qui venaient de l'Extrême-Orient. Donc ces légendes se sont propagées, ont été vraiment monnaie courante jusqu'au Moyen-Âge. Elles ont été propagées beaucoup par les innombrables versions de l'histoire d'Alexandre, qui ont été extrêmement populaires jusqu'au milieu du Moyen-Âge et qui étaient véritablement prises pour de véritables histoires. Et par la suite, alors à la Renaissance, donc, on commence à mettre en doute ces histoires. Mais surtout, on essaye, et ça va durer jusqu'au 18e, 19e siècle, sans y renoncer, de les expliquer de façon rationnelle. Alors, il y a quantité d'auteurs auxquels aussi je me suis intéressé, qui sont complètement oubliés aujourd'hui, des auteurs savants, qui nous disent, les hommes avec des oreilles de 2 mètres de long, les hommes qui ont un seul pied aussi gros qu'un pied d'éléphant, etc., etc., les hommes sans bouche, les astomes, les hommes sans nez, les arêtes,
ouais, voilà,
tout ça, ça n'existe pas. Mais, en fait, il s'agit d'une déformation de peuples qui ont vraiment existé. Donc, on va essayer de trouver une explication rationnelle. Donc, c'est une façon de ne pas y renoncer, en quelque sorte.
Mmh.
Alors, par exemple, les astomes sans bouche. Les hommes sans bouche, ça n'existe pas. Les hommes qui ne peuvent pas se nourrir, les hommes sans nez qui ne peuvent pas respirer. En fait, ce sont les hommes qui ne se nourrissaient que de l'odeur des fleurs, par exemple. Voilà, qui vivaient sur les pentes de l'Himalaya. Ah ben oui, mais en fait, alors en vérité, ce sont des peuples de l'Himalaya, en effet, qui respiraient certaines fleurs pour pouvoir supporter le manque d'oxygène en altitude. Ce qui est une nouvelle aberration pseudo-scientifique. Pour expliquer que ce mythe ait pu perdurer, par exemple, ou les sciapodes, par exemple, qui n'ont qu'un pied, Oui, bon, bien entendu, on sait maintenant, nous sommes au XVIIIe siècle, que les cyapodes n'existent pas en tant que tels, mais ils pourraient peut-être avoir été inspirés par certains sages hindous qui se tiennent pour méditer sur un seul pied.
Oui, mais on a presque envie d'y croire.
Ben ouais, ben voilà.
Mais oui, voilà, parce que on a presque, oui, on a presque envie d'y croire finalement. Par exemple, il y a des peuples, les hyperboréens. Déjà, les hyperboréens, ça nous fait rêver. Hyperboréens. Déjà, on est, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est Pline l'Ancien qui en parle. La contrée bien exposée d'une température heureuse, exemple de tout souffle nuisible. Les habitants ont pour demeure les forêts, les bois sacrés. La discorde y est ignorée, ainsi que toute maladie. On n'y meurt que par satiété de la vie. Après un repas, après des réjouissances données aux dernières heures de la vieillesse, on saute dans la mer du haut d'un certain rocher. C'est pour eux le genre de sépulture le plus heureux. Il y a une notion, oui, par exemple, Thulé aussi, Thulé que Sénèque cite comme la dernière terre. On va fêter là les 100 ans de Jean Mallory, les derniers rois, ouais. Thulé. Thulé, ça, rien que le mot fait rêver. Hyperboréen, on est déjà parti.
Ouais, les hyperboréens, oui, c'est le Grand Nord. Alors,
ouais.
En fait, dès l'Antiquité grecque, on y croyait sans y croire. C'est-à-dire qu'il y a une mythologie qui s'est greffée sur ce peuple qui vit au-delà des monts riffés, des montagnes riffées. Et donc on imagine qu'au-delà de ce grand nord où donc le froid gagne, il y a une contrée idyllique où il ne fait pas froid, effectivement, où les hommes vivent très longtemps dans une espèce d'harmonie universelle, ne tombent jamais malades, etc. Apportent chaque année aux Grecs les prémices du printemps, les fruits, les fleurs, etc. Donc il y a toute une mythologie autour de ça. Et voilà encore un peuple qu'on va finalement découvrir. Ce sont tous les peuples celtiques vont être plus ou moins assimilés aux hyperboréens. Mais dès l'Antiquité, par exemple, on voit bien que, je crois que c'est Hérodote, n'y croit qu'à moitié, tout en racontant l'histoire. Mm-hmm. En disant, mais et pourquoi pas imaginer aussi des hypernotiens.
Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas qui seraient l'espèce de négatif des hyperboréens et qui vivraient dans un hémisphère austral qu'on n'a pas encore découvert.
Vous parlez d'ailleurs de la théorie hyperboréenne. Donc on est dans comme une sorte de théorème, de théorie. L'utopie a son rôle à jouer finalement dans ces créations de peuples fabuleux, Olivier Philippona. L'utopie, oui, peut-être.
Oui, il y a beaucoup de peuples utopiques. C'est vrai qu'il y a il y a un certain nombre de peuples imaginaires, de peuples fabuleux qui représentent effectivement des sociétés utopiques. Ce sera beaucoup repris du reste par les auteurs des Lumières pour inventer des sociétés idéales. À opposer de façon fictionnelle, hein, surtout pas frontale, à la société française du XVIIIe siècle avant la Révolution. Donc on a des auteurs qui vont inventer les Sévarambes, par exemple, Voyage au pays des Sévarambes. Alors là, on est vraiment plus dans la fiction quand même.
On pense à Rabelais aussi. Enfin, il y a un côté.
Ouais,
il y a un côté. Voilà.
Ça peut être effectivement un support pour l'utopie, en effet.
Alors, il y a parmi les peuples fabuleux, il y a les Ophiogènes, charmeurs de serpents de l'Hellespont, les Frictiophages, je ne sais pas si je prononce bien, les Frictiophages, qui se délectaient, parce qu'il y a aussi, alors, il y a les menus,
oui.
Il y a ceux qui mangent, et puis il y a la longévité ou la durée de vie. Il y a le temps, est-ce qu'ils vivent longtemps ou pas longtemps. Alors, il y a vraiment des peuples fabuleux qui vivent très longtemps, hein, on en découvre. Et puis, alors, les régimes, le régime alimentaire, les Mauricènes qui rongeaient les glands, les lotophages qui mangeaient du lotos,
oui.
Les octophages qui avaient une préférence pour le poisson cru. Voilà.
Les ichthyophages, oui, ouais, oui. Les acridophages qui ne mangeaient que des sauterelles également, etc. Donc ça,
c'est marrant parce que...
Oui, c'est une des caractéristiques qui ont frappé avant la conquête d'Alexandre et à partir d'Alexandre aussi, les voyageurs grecs qui se sont aventurés sur les rives de la mer Rouge ou sur les rives de la Perse, par exemple, où effectivement les régimes alimentaires les ont beaucoup intrigués et ont contribué à créer comme ça à fantasmer complètement, par exemple, les ichthyophages. Bon, voilà, c'était les gens qui vivaient au bord de la mer et qui mangeaient principalement du poisson, mais on les a imaginés avec des bras couverts de dents de scie pour pouvoir déchiqueter le poisson, etc. Enfin, bon, voilà, ça a été tout un imaginaire qui s'est greffé là-dessus.
Et puis aussi, alors, vraiment, la longévité au Moyen-Âge, vous dites que ça fait quand même la grande longévité prolifère dans la vie mentale des hommes du Moyen-Âge. Ça, c'est une phrase de vous.
Oui.
C'est vrai que c'est... Mais nous, toujours, ce mythe de l'immortalité, de l'éternité, ou alors les peuples fabuleux vivent pas très longtemps. Enfin, c'est l'un ou l'autre.
C'est vrai que j'aurais pu, si j'avais eu beaucoup plus de temps et encore plus de curiosité, m'intéresser, par exemple, au mythe aujourd'hui, effectivement, de l'homme augmenté ou du transhumanisme qui rêve, effectivement, de créer ex nihilo de nouveaux peuples fabuleux, voilà, en augmentant la durée de vie de l'homme de façon artificielle. Mais effectivement, il y avait les macrobiens, qui vivaient sur les pentes de l'Himalaya, où on imaginait qu'effectivement ils pouvaient vivre jusqu'à 200 ans. Mais ça, c'est effectivement, c'est en général, les peuples fabuleux ont une durée de vie très courte, souvent très courte ou très longue, mais souvent en rapport avec leur taille.
Et ben voilà.
C'est ça qui est amusant. Voilà. Donc les pygmées vivent pas très longtemps. En revanche, les peuples très grands vont vivre beaucoup plus longtemps. Et puis il y a une autre problématique qu'on n'a pas abordée aussi, c'est pour les hommes du Moyen Âge et de la Renaissance, il y a une seule création, une seule genèse. Donc il n'y a qu'une origine de l'homme, il n'y a eu qu'une révélation. Et à la Renaissance, comment on va expliquer le fait qu'en Amérique, qui est complètement séparée de l'Occident, qui est un nouveau monde, c'est vraiment, les termes sont importants, un mundus novus, comment expliquer qu'il y ait d'autres hommes en Amérique? C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit ils sont nés d'Adam également, il va falloir expliquer comment ils sont arrivés en Amérique, soit ils sont nés d'une autre source, ils sont peut-être nés de la Terre elle-même, ça c'est la thèse de Giordano Bruno par exemple, auquel cas, ils ne peuvent être, même s'ils nous ressemblent, même s'ils vivent nus, même s'ils sont cannibales, ce ne peut être que des hommes fabuleux, que des êtres fabuleux, puisqu'ils ne sont pas nés de la même source que nous. Ça c'est une question qui va traverser vraiment toute la Renaissance, et notamment les jésuites, qui vont envahir en quelque sorte l'Amérique du Sud, ceux-là sont posés très très longtemps. Et ils vont finir par proposer une solution, qui est que ces hommes finalement sont venus par l'Amérique du Nord, ont traversé ce qu'on n'appelait pas encore le détroit de Bering. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est effectivement l'explication qui est privilégiée aujourd'hui. Le peuplement de l'Amérique s'est passé, en effet, par l'Asie. Mais alors, je l'avais
donc
déjà lu.
Donc, des fois, on peut y croire.
Oui, mais alors, j'étais très surpris de découvrir que, dès le XVIe siècle, il y avait des auteurs jésuites qui, par pure spéculation...
Ou déduction,
imaginaient que c'était la seule solution possible. Et d'ailleurs, les Indiens ressemblent beaucoup aux Tartares, c'est-à-dire aux Mongols. Beaucoup, des auteurs jésuites qui nous disent, les Indiens, remarquez, ont quand même le nez courbé. Est-ce que ce ne serait pas des Juifs, des tribus perdues d'Israël ont été chassés au 8e siècle avant Jésus-Christ, vers l'Est, toujours vers l'Orient, et qui finalement se sont retrouvés en Amérique en passant par le Nord, allez savoir.
Oui, il y a toute la... Vous reconstituez aussi tout ce qu'on peut dire sur les diasporas. Notion de diaspora à travers le monde, comment les peuples, le visage des peuples se reconstruisent, etc. Et pour l'Amérique du Sud, ce que vous expliquez très bien, c'est que la notion de peuple fabuleux, en fait, pour ceux qui vont être envahis par les Espagnols, donc la conquête espagnole, l'Amérique du Sud, finalement, l'autre est le fabuleux, enfin, et le peuple, l'alter ego, celui qui vient, est fabuleux, mais ceux qui étaient sur place, ils ont cru tellement, ils croyaient que c'était des dieux, donc ils n'ont pas osé répliquer à l'invasion espagnole. Et vous expliquez très bien que les Cortés, tout ça, ils en ont joué de cette croyance, de cette fable, parce que c'est une fable. Donc ils en ont joué, ils étaient prisonniers aussi de leurs rêves, et ils étaient tétanisés par cet étranger qui représentait pour eux un dieu, et du coup ils se sont laissés...
Et qui bouleversait complètement leur conception cyclique du temps, en quelque sorte, hein, puisque les calendriers aztèques préexistaient depuis toujours et permettaient de prévoir le futur de façon complètement cyclique pendant des années et des années, et les Espagnols arrivent là-dedans, complètement à contre-temps, en quelque sorte, et la rationalité des Amérindiens, des Aztèques, ne peut aboutir qu'à les considérer effectivement comme des créatures fabuleuses, des créatures divines, en quelque sorte. Alors ça ne va durer qu'un temps, hein. Au bout d'un ou deux ans, quand les Espagnols auront massacré les... Les empereurs aztèques, la population aztèque va bien comprendre que les Espagnols sont des hommes mm-hmm. comme les autres. Mais au départ, c'est vrai, on les voit monter sur des chevaux. Le cheval n'existait pas
en Amérique. Il y a que les Mayas qui ont un peu.
Oui, exact. Oui, qui étaient moins. Ouais, mais qui les connaissaient déjà depuis quelques années.
Voilà.
Oui, c'est eux qui les ont vus les premiers.
Voilà.
Arriver les Espagnols. Les Espagnols sont arrivés sur des chevaux. Les chevaux n'existaient pas en Amérique. Et beaucoup d'aztèques s'imaginaient que le cheval et l'homme ne formaient qu'une créature fabuleuse. Par exemple, en plus, ils étaient barbus, alors que les Aztèques se rasaient. Ils étaient couverts d'armure, ils sentaient mauvais, etc. Et puis, ils étaient armés d'arquebuses qui crachaient du feu en faisant un fracas épouvantable. Donc, tout ça, effectivement, avait installé dans la psyché amérindienne l'idée que c'est la même chose du côté des Incas, que les Espagnols n'étaient pas des hommes, ou en tout cas étaient des... mi-homme, mi-créature fabuleuse.
Envoyé du ciel, quoi. Pour eux, tout était écrit, donc ça faisait partie des prophéties, etc.
Tout à fait.
Donc,
tout à fait, tout à fait. Et donc ça a précipité leur perte, et lorsqu'ils s'en sont rendus compte, il était hélas trop tard.
Il était trop tard. On va faire une petite pause musicale, et après nous reprenons notre voyage du côté des peuples fabuleux.
Alors moi j'en connais un qui a bercé mon enfance, c'est le peuple des sirènes de la mer. Et justement, une autre parution récente en jazz, Melkony Project, et là on va en Bretagne, c'est Louis Perret et Gwen K.U. et Var. Vous allez comprendre pourquoi je parle de sirène.
Var, vas-y maintenant, même à pas long, avant que s'envole la vie. Var. Au-delà des vagues vives, vogue là. Prends quelques navires, belles vedettes ou modestes coques de noix. Va donc au-delà du pire, là-bas, vogue là. Jamais l'amour ne rend les armes. Il a tellement le coup du drame. Va t'en naviguer le bruit des rames et des lames sous mon âme. Mais il est tout d'avoir en moi un peu de toi. De l'au-delà, là où les dieux n'entendent pas, le long sanglot des amoureux viennent d'ici-bas. Je tairai ma voix, voilée à vie par l'écume de tes 20 ans. Je ne serai plus jamais sirène.
Elle ne sera plus jamais sirène, c'était Melkony Project.
Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui avec Olivier Philippona qui vient nous parler, nous faire rêver autour de la géographie des peuples fabuleux. Un essai qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel. Alors Olivier Philippona, c'est vrai qu'on a parlé de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Et ce qui est passionnant dans la découverte, enfin, et la conquête aussi des Amériques, je ne sais pas, c'est cette conception du temps dont on a parlé tout à l'heure par la conquête espagnole. Vous écrivez dans la conception aztèque du temps humain. Subordonné au temps des dieux, rien ne survient qui n'ait été présagé, écrit, prophétisé. Le comportement imprévisible et déterminé des Espagnols, pour qui le temps est une flèche et non une roue, tétanise littéralement le roi Moctezuma et ses sujets, qui ne peuvent que subir le destin précipité par ces étrangers extra-humains. Alors, voilà, cette notion du temps...
Elle
est très importante.
C'est vrai, j'ai lu dernièrement, il y a un dossier du magazine L'Histoire qui est paru sur le temps, justement, qui s'ouvre par un texte de, je ne suis pas sûr de son prénom, de Thomas Herzog, qui a inventé la catégorie du registre de temporalité, justement, selon les peuples, les civilisations, etc. Et c'est vrai que... Et puis il y a aussi la distinction de Lévi-Strauss entre les sociétés chaudes et les sociétés froides. Sociétés froides pour lesquelles le temps est quelque chose de figé, qui se répète sans cesse. Rien ne peut jamais évoluer, donc tout est fixé, ritualisé, etc. Alors que pour les sociétés chaudes, et c'est notamment toutes les sociétés issues du christianisme, il y a un futur, un présent qui se projette dans le futur et qui n'est pas la répétition du passé. Pour les Aztèques, si. Le temps ne peut être que la reproduction éternelle du passé. Donc on assiste effectivement, au début du XVIe siècle, à la confrontation de ces deux temporalités. On a un peuple qui se projette dans l'avenir, dans son propre avenir, dans sa propre évolution, qui est les Occidentaux, les Espagnols, et puis les Aztèques qui vivent dans un temps, dans le temps de la fatalité, en quelque sorte. Ce qui arrive devait arriver.
Oui, d'ailleurs, ils ont écrit des calendriers, ils étaient vraiment fascinés par cette notion du temps. Mais aussi, on peut se demander si les peuples fabuleux, finalement, c'est pas des sortes d'incarnations de l'évolution humaine aussi, quand on parlait de la morphologie... Enfin, ça fait pas ce que pense à l'évolution, enfin, au chemin, il y a un côté darwinique dans tout ça, il y a un côté l'espèce humaine qui se modifie, qui a des métamorphoses, c'est assez... est-ce que c'est pas là aussi l'interrogation de l'homme qui s'interroge et qui attribue à ces peuples-là, on arrête une temporalité, hop, et on le projette dans un autre temps.
Oui, je sais pas réfléchi à ça, mais il y a effectivement quelque chose à creuser de ce côté.
Alors, il y a aussi ce qui est important aussi, c'est le cannibalisme. Ça, c'est propre de certains peuples dits fabuleux. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, hein, j'imagine. Olivier Philippona, il y a beaucoup de textes de fantasmagorie
sur le. Encore, c'est un petit peu comme le. C'est un petit peu la même chose que pour les Patagons. C'est-à-dire que pour les Grecs, il est évident que les populations scythiques, c'est-à-dire vraiment de l'Orient, du Grand Orient, voilà, jusqu'aux confins de l'Asie, sont peuplées de cannibales qui attrapent les voyageurs, qui les découpent, qui les mangent, etc. Mais finalement, on ne les rencontre jamais. Donc là, on est vraiment dans le fantasme d'un peuple fabuleux. On est dans un fantasme humain qui est celui d'être dévoré par des hommes dont on ne sait pas bien s'ils sont pas plutôt des animaux. Et puis finalement, effectivement, avec les grandes découvertes en Amérique, on les rencontre. Ça commence dès Vespucci, et Christophe Colomb, où on a les premiers témoignages, effectivement, de voyageurs occidentaux qui sont dévorés ou qui sont mangés, on va dire les choses plus simplement, par des peuples, alors soit anthropophagie rituelle, une chose assez classique, soit anthropophagie guerrière, ça ils assistent effectivement à des repas anthropophages entre tribus hostiles, etc. Et pour un certain nombre de découvreurs et de géographes, parce que les géographes ont toujours un temps de retour sur les découvreurs, en général ils ne sont pas allés sur place mais ils en savent plus long, les cannibales ne peuvent pas être des humains puisque ça n'est pas une pratique humaine que de manger son semblable. Donc ça permet aussi de renouveler la catégorie du peuple fabuleux à la Renaissance. Et puis surtout, je vous dis, il y a beaucoup d'auteurs, et notamment d'auteurs protestants, qui vont expliquer que ces choses-là se sont produites également en Occident, que pendant les guerres de religion, on a vu ce genre de choses, pendant le siège de Paris, on a vu des contraints et forcés, des Parisiens manger d'autres Parisiens, et que donc le cannibalisme est une catégorie universelle. Et je crois que c'est Voltaire qui, dans son dictionnaire philosophique, qui dit quelque part que il a beaucoup plus d'esprit que je ne vais le faire, que bien sûr il est moins horrible de manger un homme mort qu'un homme vivant, comme on l'a vu faire pendant les guerres de religion. Ouais. Ça permet aussi de relativiser, d'inverser le rapport de l'homme civilisé à l'homme fabuleux. Bah, finalement, nous sommes peut-être nous occidentaux des êtres non civilisés. Il y a encore des efforts à faire. Ouais.
Vous dites les peuples cannibales sont une vieille connaissance de l'humanité depuis les mythologiques les Strigons, voilà, oui. De l'Odyssée. Et puis, parce qu'à chaque fois, en fait, il y a aussi cette notion d'isolement de certaines peuplades. C'est comme ça que, par exemple, Jérôme Cardan explique l'endogamie, enfin le gigantisme, la longévité de certains peuples dits fabuleux, parce qu'ils sont très isolés, donc forcément, ils ont des caractéristiques précises. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce retour à l'altérité, cette confrontation à l'altérité. Et vous parlez de quelque chose qui est très intéressant, plus qu'intéressant, plus préoccupant, c'est l'apparition des zoos humains. À un moment donné, vous en parlez, les premiers zoos humains, on expose.
Ah ben là, non, c'est... Oui.
Et là, c'est... Vous montrez d'ailleurs, vous en parlez d'ailleurs, je crois que on expose vraiment ces peuples venus d'ailleurs, cette notion-là de zoo humain, et c'est d'ailleurs un maurassien, un journaliste maurassien, en plus, d'après ce que j'ai appris. Ironie du sort,
ironie du sort,
je crois qu'il travaille à Candide, qui va dénoncer ça en plus.
C'est lors de l'exposition universelle de 31, c'est Lobro, le fameux Lobro qui va devenir, qui sera effectivement collabo en 40 et auquel, qui va écrire, alors on sort du sujet là, qui va écrire un article terrible, terrible sur Jean Cocteau. Et Jean Marais va aller casser la gueule à ce fameux Lobro.
C'est ce fameux Lobro. Voilà, d'accord.
C'est lui, et c'est lui, effectivement, qui est allé rencontrer les fameux soi-disant cannibales exposés pas dans l'exposition universelle, mais en dehors de l'exposition universelle, mais concomitamment, en tout cas. Il est allé les rencontrer. Je crois qu'il y avait le grand-père de Carambeu, il me semble, qui faisait partie de ces gens-là, mais qui avait été simplement recruté en Nouvelle-Calédonie.
Ouais.
Et on leur a fait jouer le rôle d'un peuple de cannibales, d'un peuple fabuleux, non civilisé, incapable de s'exprimer, etc. Effectivement, c'est encore une de ces volontés de perpétuer le mythe du cannibalisme, en l'occurrence, alors que c'était tout à fait, effectivement, complètement, complètement fantaisiste, mais...
Avec une mise en scène, parce que c'est...
Oui, avec une mise en scène, oui, mais c'était tout simplement de l'exploitation, et du reste, il me semble qu'à l'époque, je crois que c'était le général Lyautey qui était le haut commissaire de l'exposition universelle, qui, à la suite de l'apparition de cet article, a immédiatement récusé cette exhibition en disant que ça n'avait strictement rien à voir avec le projet de l'exposition universelle, de l'exposition, je dis universelle, pardon, l'exposition coloniale. Ouais.
Coloniale, c'est ça. Témoin des fameux zoos humains ou du jardin d'acclimatation, fut présenté en avril 1931 une colonie de cannibales kanak, terme quasi synonyme dans l'imaginaire colonial, alors même que les organisateurs de l'exposition coloniale au parc de Vincennes avaient refusé toute exhibition
c'est
de
ça.
Cet ordre.
Ouais, c'est ça.
Et à chaque fois, en fait, il y a quand même ce qu'on voit dans votre livre, Olivier Philipponas, c'est que bon, il y a la mythologie, la fantasmagorie, puis il y a la réaction. C'est-à-dire que on ne croit pas tout non plus. Il y a des limites. Par exemple, vous dites qu'il faudra attendre le 21e pour démontrer que la valeur calorique de la chair humaine est trop médiocre pour expliquer l'anthropophagie par les seuls besoins nutritionnels. C'est plutôt des rites, c'est plutôt des rituels.
Oui, bien sûr, c'est plutôt rituel, ou comme je le disais tout à l'heure, de l'anthropophagie guerrière, où c'est une façon de se venger l'adversaire. Mais voilà, une autre façon de montrer que l'imaginaire du cannibalisme s'est prolongé et peut être encore interrogé. Il y a des textes de Lévi-Strauss assez tardifs où il explique que le cannibalisme n'existe pour ainsi dire plus, mais est-ce qu'on peut quand même s'interroger sur ce que les humains du futur penseront lorsqu'ils verront des photos des années 1960, 70, 80, 90 de boucherie à Paris? dans les rues de Paris avec de la viande sanguinolente. Bon, c'est pas de la viande d'homme, c'est pas de l'anthropophagie, mais est-ce qu'on considérera pas dans 50 ans ou dans 100 ans, on voit bien que la question se pose aujourd'hui, de savoir si manger de la chair animale, ça n'est pas une pratique cannibale. Je dis pas anthropophage, hein, mais une pratique cannibale, une pratique fabuleuse qui sera repoussée avec horreur dans un siècle, si ça se trouve. Alors, quand Lévi-Strauss écrit ça dans les années 80, ça paraît assez délirant, mais finalement, on est en 2020, et cette question, on est d'accord qu'elle se pose de plus en plus.
Oui, oui, effectivement. Et aussi Melville, qui lui souligne un petit peu, vous dites à un moment donné, incrimine des siècles de récits tellement épouvantables qu'ils ont trouvé place sur la même étagère que Barbe Bleue, certains récits de voyage, parce que... on n'a pas parlé de Marco Polo, parce que tout ça, oui. Marco Polo quand même a beaucoup fait pour les peuples fabuleux.
Oui, c'est vrai. Effectivement, il a beaucoup fait pour les peuples fabuleux. Et il faut quand même rappeler que Christophe Colomb avait la tête pleine de Marco Polo et d'autres auteurs de cette même époque. Voilà, quand il part en Amérique, on rappelle, tout le monde sait ça, mais qu'il croyait qu'il allait partir à la découverte de Cipango et du Grand Khan. Le mot cannibale vient de là. Hein. Il pensait découvrir le grand Khan, c'est-à-dire le maître de l'extrême-orient.
Et donc finalement, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai que tous ces grands explorateurs, ils lisaient ces livres-là. Ils lisaient. On parle de Marco Polo. On parle de. Ils étaient nourris par ces mythologies,
Oui, nécessairement, puisqu'ils avaient ils avaient tous lu, voilà, les encyclopédistes médiévaux, ils avaient évidemment lu les auteurs latins, les classiques grecs, etc. Donc ils avaient la tête farcie de cette mythologie, évidemment, oui, bien sûr. Et Marco Polo Christophe Colomb tout le premier, en effet.
Alexandre aussi, parce qu'Alexandre, il y a dans sa lettre, il y a une lettre à un moment donné, je crois, à sa mère, où il énumère, il y a toute une liste.
Oui.
Qui a été repris, parce qu'en fait tout le monde se plagie dans cette histoire.
Oui, exactement, et puis alors c'est une lettre plus ou moins apocryphe, hein. On n'est pas certain qu'Alexandre ait vraiment écrit cette lettre à sa mère, mais effectivement il fait la liste des...
Puis le peuplade pittoresque, les Anuges, oui. Les Égéens, les Exénaques, les Diphares, les Polyténéens, les Sarmatiens, les Chaloniens, les Agrimardes, les Anouphages, les Tarbéiens... Les Saltariens, les Phonocérates, les Catémogoriens, les Camanes, les Samandres, les Hippiens, les Épamboriens. Donc c'est une invention verbale fabuleuse.
Oui, puis sur lesquelles on ne sait à peu près rien. On ne connaît à peu près que leur nom, finalement.
Et moins on en sait, mieux on rêve.
Oui, tout à fait. Oui, mais alors c'est vrai que l'épopée d'Alexandre le Grand a donné lieu à toute une littérature... qu'on pourrait qualifier de fantastique aujourd'hui, c'est la naissance du roman. Hein,
voilà. Ouais.
L'histoire d'Alexandre, le roman, au sens moderne du terme, naît avec le roman d'Alexandre.
Et est-ce qu'au XIXe siècle, avec l'arrivée de Jules Verne,
oui.
Ces peuples fabuleux, il y a eu un... Parce qu'on a l'impression que c'est très fort, la mythologie des peuples fabuleux au Moyen-Âge, à la Renaissance, puis après il y a une pause. Enfin, je ne sais pas si je me trompe ou pas. Enfin, est-ce que finalement le roman prend le relais de toute cette littérature?
Jules Verne, il n'y a pas tellement de peuples fabuleux chez Jules Verne, et du reste, il a écrit une histoire, il me semble, une histoire de la géographie, Jules Verne, son œuvre la plus connue. Il parle aussi des Patagons dans les Enfants du Capitaine Grant, je crois, mais c'est vraiment pour s'en moquer, enfin pour se moquer de ceux qui ont cru...
Parce que Voyage au centre de la Terre, par exemple, on est quand même dans... C'est comme l'Atlantide dont je vous parlais tout à l'heure.
Oui, mais là, on est vraiment dans l'univers romanesque, dans l'univers fictionnel. Il ne cherche pas à faire croire ça à qui que ce soit. En quelque sorte, on peut dire que le roman a pris le relais. C'est vrai que... ou par exemple, un auteur comme Wells, hein, j'en parlais au départ. Il y a... des romans de Wells qui se passent dans la Lune, où il va à la rencontre du peuple des Séléniens, par exemple. Il y a La machine à explorer le temps, etc. Et souvent, là, ça sert de support à des métaphores sociales. C'est pas particulièrement vrai pour La machine à explorer le temps. Mais c'est effectivement un relais des peuples fabuleux dans le roman.
Gulliver.
Gulliver,
ça c'est très, très fort.
Oui, mais on voit bien que c'est là, il y a une dimension métaphorique. Alors en fait, cette dimension-là, mais pas métaphorique, mais allégorique, on va dire, elle existait au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des auteurs au Moyen-Âge qui voyant bien que tous ces peuples fabuleux n'avaient été jamais rencontrés par personne, que leur existence était peut-être sujet à caution, pouvaient au moins avoir une valeur allégorique. C'est-à-dire que, par exemple, on pouvait ne pas croire qu'existaient les acéphales, qui avaient, encore une fois, les yeux, le nez, la bouche sur le torse, existaient vraiment, mais ça pouvait servir d'enseignement, c'est-à-dire ne pas avoir l'esprit trop près du ventre, par exemple. Voilà. Donc il y a toute une série d'interprétations comme ça, qui ont été produites au Moyen-Âge pour donner au moins un sens moral ou allégorique à ces créatures. Et puis, alors on a des... Il y a un signe vraiment flagrant que toutes ces créatures tombent complètement dans le domaine de la fantaisie, de l'imaginaire, du grotesque. Au XIXe siècle, c'est par exemple chez Flaubert qui reprend, met en scène ces créatures, les panothéens aux longues oreilles, les cyapodes avec leurs pieds uniques, mais où c'est devenu presque uniquement des ornements de littérature.
Ouais, c'est ça, c'est le passage. Et puis il y a à la fois les chiens et le singe, la planète des singes.
Oui, ouais. J'ai pensé à la planète des singes, c'est vrai.
Et c'est vrai que c'est... on pense aussi à Vercors, les animaux dénaturés, d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais pas pensé à ça.
Mais... Vercors, oui, ça. Et les singes, alors ça, je pense qu'il y a... Vous en parlez bien dans votre livre. C'est vrai que si l'imaginaire, enfin la frontière entre l'homme et le singe, le chimpanzé, ça pose...
Voilà. C'est une question complexe, ça. C'est vrai
voilà,
que ça a été...
Ce passage de l'animal à l'humanité, en fait, c'est le passage... fait fantasmer les uns et les autres. Enfin, on ne sait pas si certains singes sont des humains. Il y a une sorte de zone.
Alors, effectivement, alors de la même façon que... Effectivement, un film comme La planète des singes, par exemple, c'est une façon de perpétuer cette légende, ce mythe auquel plus personne ne croit, mais auquel on aimerait quand même encore croire. Alors, on le recycle dans la fiction. Mais c'est vrai que la frontière entre l'homme et le singe, ça a été une question qui a vraiment hanté les savants jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à Cuvier, jusqu'à Darwin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a bien démontré que l'homme et le singe, c'était vraiment deux choses différentes, que la physiologie le démontrait, etc. etc. Bon, je ne vais pas en refaire l'histoire, mais on peut la découvrir dans ce livre.
Bien sûr.
Malgré tout, il se trouve encore des apprentis explorateurs à la fin du XIXe siècle, etc., pour décider qu'il existe peut-être quand même un chaînon manquant. Il existe peut-être quand même dans des forêts inexplorées d'Afrique des hommes singes, des hommes à queue. Alors ça, et donc il y a un espèce de pseudo-explorateur français comme ça qui a écrit un livre entier sur les hommes à queue avec une préface d'Alexandre Dumas quand même.
Alexandre Dumas, c'est belle.
Et on se demande si ça prend ça très au sérieux d'ailleurs quand on lit sa préface. Et alors ce qui est génial dans ce bouquin qui s'appelle Au pays des Niam Niam, je crois, ça s'invente pas, c'est qu'il explique par A plus B qu'il a rencontré des hommes à queue, que les hommes à queue existent et il en produit même une gravure. Et alors on se frotte les yeux parce qu'on regarde la gravure de l'homme à queue qui est représenté de dos. Il a une queue minuscule. En fait, c'est juste un coccyx qui dépasse de quelques centimètres. Et alors là, on voit effectivement toute la force du fantasme à l'œuvre.
Mais c'est vrai qu'on voilà, c'est pour ça que je passais des témoins du temps tout à l'heure. Et il y a tout cet imaginaire qui est très très présent. On va faire encore une pause musicale et après on poursuit notre conversation.
Et là, c'est Kathleen Ferrier, que je ne présente pas, Gluck, Orphée et Eurydice.
Without thee, what is life?
Voilà, vous écoutez Radio Libertaire, l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en présence d'Olivier Philipponat, qui vient nous présenter son livre « Géographie des peuples fabuleux ». Ça vient de paraître chez Buchet-Chastel. Olivier Philipponat, puisque nous y sommes, vous allez peut-être nous lire un extrait de votre livre.
Oui, avec plaisir. Hein, avec plaisir, parce qu'il y a un personnage dont on n'a pas parlé, qui est un grand coupable dans toute cette affaire, c'est Saint-Augustin.
Ah oui.
Puisque un grand père de l'Église, qui est le premier à avoir finalement accueilli les peuples fabuleux les plus extravagants dans ce qu'il appelait la cité de Dieu, expliquant qu'il n'y avait aucune raison de les rejeter, quand bien même on n'y croit pas. Voilà. Il se peut qu'il existe, puisque rien n'est impossible à Dieu, et que donc il est permis d'y croire. Comme vous me le proposez, je vais vous lire la page qui concerne Saint-Augustin. L'envie où le besoin de croire aux monstres humains est si ancré en l'homme que les pères de l'Église ont cru devoir justifier l'existence d'êtres dont il semblait difficile de prétendre qu'ils descendaient d'Adam. Au IVe siècle, saint Augustin décide de les accueillir dans la cité de Dieu comme on naturaliserait un trop-plein d'étrangers. Si Dieu fit du même sang toutes les nations du monde, comme il est dit dans l'Écriture, et s'il est juste dans toutes ses voies et saint dans toutes ses œuvres, alors les peuples difformes, avérés ou non, sont des fruits de la création. Et de quelque figure que naisse un homme, je cite saint Augustin, quelque insolite soit à nos yeux la forme de son corps, sa couleur, ses mouvements, sa voix, aucun fidèle ne noutera que cet homme tire son origine de l'homme modèle unique et primitif. Dieu ne peut pas s'être trompé, pas plus lorsqu'il dote un nouveau-né de 12 orteils qu'en permettant l'existence des astomes, qui n'ont pas de bouche, des monocoles, qui n'ont qu'un pied, ou des acéphales, qui n'ont pas de tête. Bien sûr, ajoute Augustin, nous ne sommes pas obligés de croire à tout cela. Mais si la preuve était apportée que de tels peuples existent, il ne faudrait pas douter qu'ils descendent de Cham, fils maudit de Noé, et peuvent donc être rachetés. Qui sait si Dieu n'a point voulu les créer ainsi, afin que nous ne croyions pas que les monstres qui naissent parmi nous soient les ouvrages d'un autre ouvrier moins parfait que lui. En somme, si l'existence de tels peuples est improbable, il ne faudrait toutefois pas s'en étonner. Et c'est pourquoi, sur le tympan de la basilique de Vézelay, les apôtres prêchent aux cynocéphales, à tête de chien, aux panothéens, à longues oreilles.
Et voilà. Alors, tout à l'heure, l'homme singe, d'abord, c'était l'homme cadatus, c'est ça, je pense.
Pourvu d'une queue, oui,
voilà,
cadatus.
Voilà,
oui,
cadatus.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est vrai qu'on apprend. Quel a été, vous, le peuple fabuleux qui vous a le plus étonné, intrigué, Olivier Philippona, ou...
Alors il y en a des tas. J'avoue alors maintenant que je suis bien renseigné sur le sujet, les panothéens aux longues oreilles, c'est vraiment l'archétype du peuple fabuleux. Voilà, tous les auteurs peu érudits le connaissent, mais moi je l'ai découvert à l'occasion de ce livre. Alors un peuple très étrange. Il y a les hommes à tête carrée, par exemple.
Ah oui, ça c'est.
Alors ceux-là sont particuliers parce que on a commencé à croire leur existence que lors de la découverte de l'Amérique. Et notamment les explorations de Sir Walter Raleigh en Guyane, par exemple, ouais. Qui dit en avoir rencontré. Alors il y a des représentations qui montrent des hommes à tête carrée, qui se confondent parfois un petit peu avec les acéphales qui ont la tête rentrée dans les épaules. Et puis finalement, ça s'est très bien expliqué. C'est pas quelque chose une croyance qui a duré très très longtemps par le fait que effectivement chez certains peuples, certaines tribus d'Amérique du Sud, on déformait artificiellement le crâne des nouveau-nés.
Ouais. Voilà. Comme quoi le réel rejoint la fiction.
Exactement.
Il y a un peu de vrai, des fois.
Donc il y a un peu de vrai. Les hommes à tête dite carrée ou en pointe, par exemple. C'est vrai qu'il y a ces fameux. Je me rappelle plus le nom de ce peuple, mais on a découvert. Il y a des musées en Amérique du Sud qui les présentent, des crânes extrêmement allongés penser. Alors il y a. De nos jours, les thèses les plus absurdes courent au sujet de ces crânes, ce seraient des créatures extraterrestres, etc. En fait, non, pas du tout. Voilà, ce sont des crânes qui ont été déformés à la naissance artificiellement par des bandelettes, par exemple, qui étaient serrées autour du crâne de la même façon que les fameuses bandelettes chinoises sur les pieds des petites filles. Voilà, c'est le même phénomène.
Il y aura aussi un livre à écrire sur les ovnis, parce que là, les ovnis, la représentation de l'ovni. Vous avez été vos sources en bibliothèque, des livres que vous, j'imagine, en bibliothèque, sur Internet.
Je dois dire que la littérature sur les peuples fabuleux, elle cesse, grosso modo, au début du XXe siècle. Donc pratiquement tout est accessible en ligne maintenant. Voilà. Sur soit des articles scientifiques, soit des auteurs classiques qu'on va trouver à la BNF, etc. Donc pas besoin de. C'est le paradoxe d'ailleurs hein, pour s'intéresser à ces peuples du bout du monde. Le plus simple, c'est encore de rester chez soi avec son ordinateur.
Et puis on apprend aussi, par exemple, le mythe de nos ancêtres les Gaulois est né vers le 19e siècle.
Voilà, mais alors j'allais y venir, oui. Parce que effectivement, cette littérature, elle s'interrompt à peu près au 20e siècle ou à la fin du 19e siècle. Ce besoin de croire au peuple fabuleux puisque toute la terre est connue, effectivement, que voilà, il y a une espèce de mélancolie du monde fini. Eh bien, ce besoin de croire va se réinvestir dans d'autres domaines. Alors, effectivement, il y a, par exemple, l'origine fabuleuse du peuple français qui serait issue de nos ancêtres les Gaulois. Voilà, bon, je dis les choses de façon extrêmement caricaturale, mais c'est une façon de recréer des peuples fabuleux dans un passé déjà connu.
Et puis,
l'autre exemple que je développe un petit peu dans le livre, bien sûr, c'est l'espèce de fabulation qui va tourner au délire du peuple juif au XXe siècle, bien entendu. Alors ça démarre évidemment avec Luther, avec l'antisémitisme chrétien, etc. Ça aboutit au nazisme, bien entendu. Je résume les choses de façon extrêmement brève, mais avec des légendes complètement délirantes. Voilà, on imagine effectivement, mais jusqu'au XXe siècle, que les Juifs sont parfois anthropophages. Alors, quand ils ne dévorent pas des enfants, ils les sacrifient ou ils boivent leur sang, etc. Enfin, ça participe aussi de la recréation d'un peuple fabuleux à partir d'un peuple existant.
Oui, il y a chaque fois donc des on est dans le fantasme, vraiment la projection. En 1859, dites-vous, la Société d'anthropologie de Paris dit que la plupart des Français portent le cachet de l'hybridité. Alors, le dernier chapitre, c'est Triste confin, je pense. Ça fait référence un peu à Triste tropique, on pense tout de suite.
Fait, oui.
Est-ce que vous avez eu un modèle, ça sera une de mes dernières questions, Olivier Philippona, est-ce que vous avez eu un modèle quand vous avez des livres modèles, des livres qui vous ont marqué, mais voilà, vous avez dit, je vais faire... Est-ce qu'il y a eu un livre modèle pour vous, pour écrire ce livre ? Qui n'est pas facile, hein, je dis aux auditeurs, c'est un... parce qu'il y a... Il y a beaucoup de pistes, vous ouvrez beaucoup de portes.
Est-ce que j'ai eu un modèle non
Qu'est-ce que vous vouliez éviter dans votre... Est-ce qu'il y avait des choses à éviter, des écueils à éviter?
Bah, je voulais éviter d'être un nouvel auteur du Moyen-Âge et de faire une simple nomenclature de tous les peuples fabuleux, simplement en les décrivant un par un. Il fallait expliquer aussi d'où ils viennent, comment ils se transforment, s'il y a un fondement rationnel à toutes ces croyances. Ça c'était vraiment l'objet de la science au XIXe siècle. Est-ce que j'ai eu envie d'y croire moi-même? Ça, c'est peut-être la question.
Mais oui, c'est ça.
Que vous pourriez me poser. Non, je suis un tempérament assez rationnel. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de faire un livre de synthèse. J'ai essayé d'y mettre... J'espère qu'il y a un peu d'humour quand même.
Oui, il y a de l'humour.
De temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai voulu faire un livre... j'ai malgré tout voulu faire un livre sérieux, en effet. Parce que je me suis aperçu que sur ce sujet, il existe une littérature très abondante, parfois très pointue, beaucoup plus pointue que ne l'est mon livre. Mais que personne ne s'était encore occupé de synthétiser toutes ces connaissances. C'était effectivement un travail très difficile.
Presque mission impossible d'ailleurs. Est-ce que vous avez pris en filature sur une carte? Vous savez, vous pourriez avoir une carte et mettre... ça aurait été amusant.
Oui, on m'a dit, vous auriez dû insérer des cartes dans votre livre, mais il en aurait fallu beaucoup parce que autant de cartes, autant de géographes, autant de contradictions.
Enfin, ouais.
Les mêmes peuples sont situés à des centaines de kilomètres de distance. C'est infaisable.
Et puis la carte évolue parce que les continents, la représentation évolue.
Oui, bien sûr, la carte évolue. Donc, il faudra une carte interactive, évolutive, pour bien représenter la dissémination des peuples fabuleux.
Ça viendra peut-être un jour.
Oui.
Nous l'avons dit et redit, les peuples fabuleux sont des marginaux géographiques. Ça, j'ai bien aimé ce terme de marginaux géographiques. Ils ne cessent de reculer à notre approche. Et l'une de vos dernières questions, ça c'est l'une de vos dernières phrases, Olivier Philippona, dans ce livre « Géographie des peuples fabuleux », et l'une de vos dernières problématiques, « Faute d'étrangeté, l'humanité sera-t-elle encore considérer sa propre singularité ou courra-t-elle plus vite à sa perte pour s'aliéner dans un passé irréparable ?»
Oui, moi pour conclure, je dirais qu'il faut continuer à se montrer accueillant aux peuples fabuleux et plus généralement aux peuples étrangers.
Voilà, merci à vous Olivier Philippona. Je recommande à nos auditeurs Géographie des peuples fabuleux. C'est un livre qui est costaud, mais enfin c'est pas non plus du 600 pages, hein. On en est à 300 et quelques. Ça vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel. Je recommande, et puis entre-temps on peut aussi lire votre biographie de Roger Stéphane, Irène Némirovski et Emmanuel Berle, qui étaient, eux, des personnages fabuleux.
Ah oui, on peut le dire.
Merci à vous, Olivier Philippona. L'émission est disponible en podcast sur les deux sites, enfin le site de Radio Libertaire et un deuxième site, je crois. Et voilà, je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles découvertes littéraires. À très bientôt, merci à vous.
Et place sur Radio Libertaire à l'émission suivante qui parle de littérature prolétarienne, pour faire le passage, le jingle. Au revoir.